en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Sur la fichette, la romancière a écrit ces quelques lignes. Une phrase entendue dans l'enfance, un acte que l'on regrette, un bonheur volé, une pensée qui vous tourmente ou vous fait sourire, rien du tout, mais qui revient sans que vous sachiez pourquoi. Un désir, un remords, une peur qui retient votre esprit en otage. Et puis quelques lignes plus loin, une romancière recueille confidences, confessions et autres secrets. Suivent quelques précisions pour garantir l'anonymat et quelques détails pratiques. C'est ainsi que Marie Nimier s'est lancée dans cette aventure littéraire originale qui commence les yeux bandés dans une pièce et qui débouche sur un livre sensible, parfois drôle, parfois étonnant, souvent troublant, qui dit les peurs, les regrets, les espoirs ancrés en nous, quelques fragments d'humanité, en bref, au fil de la plume. Les confidences de Marie Nimier est paru chez Gallimard et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Marie Nimier.
Bonjour.
Vous le dites vous-même à votre entourage pour évoquer ce livre, ce projet de livre. Vous parliez, je vous cite, de votre machin.
Ah, mon machin.
Autour des confidences.
Oui, j'avais un synonyme, il y avait truc aussi.
Ah, truc aussi, voilà, c'est assez vague quand même.
C'était
dans,
vague
dans
au départ.
Du vocabulaire.
C'était vague au départ, il y avait quand même au départ l'idée de recueillir des récits, voilà, une expérience comme ça que j'ai pu vivre grâce à un festival qui s'est déroulé à Nantes. Mais après, ce que j'allais faire avec ces choses-là, ça, c'était pas gagné. Voilà,
et c'est vrai en tout cas que l'objet littéraire que le lecteur tient entre ses mains est assez singulier. On va s'arrêter en détail dans un instant sur la méthode, mais tout d'abord sur l'idée elle-même. Pourquoi et comment est-ce que vous avez eu l'idée, cette fois, de vous effacer devant la parole des autres?
Alors déjà, c'était un désir un peu formel qui semble bien loin quand même de ce que vous avez raconté, puisque là on est quand même dans une expérience humaine dans ce que vous avez raconté. Mais pour être tout à fait honnête, le départ c'était envie d'écrire des textes très courts. Expérience que j'avais vécue au Havre pour les 500 ans de la ville du Havre. Les commerçants avaient demandé à des écrivains d'écrire des choses inspirées de témoignages. Et j'avais eu comme ça l'occasion d'écrire des textes très courts, 1500 signes, c'est vraiment une toute petite page, et qui racontaient quelque chose de ce qui se passait dans leur boutique. Et c'était affiché sur leur vitrine. Donc ça, c'était, j'aimais beaucoup cette idée du dedans-dehors, c'est-à-dire raconter des choses de l'intime, mais de le mettre sur une vitrine et que les clients puissent lire cette petite parole qui était réinventée. Hein. Il s'agissait vraiment de faire du roman, d'inventer quelque chose à partir de ce qu'il racontait. Donc ça, c'était la première expérience.
Oui.
J'ai eu envie de le poursuivre, et j'ai eu cette rencontre au festival Bifurcation avec quelqu'un qui me dit, voilà, on vous invite pendant 2 semaines et proposez-nous quelque chose en collaboration avec les Nantais. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, il m'avait proposé, déjà, l'écrivain invité l'année précédente avait une table réservée au restaurant et pouvait déjeuner avec quelqu'un qui s'inscrivait. Donc, il avait déjeuné pendant 15 jours avec des gens différents. Et moi, pour moi, c'était l'horreur. L'idée d'avoir des gens qui viennent pour manger en face de moi, pour discuter avec moi, vraiment, c'était quelque chose qui m'angoissait terriblement.
Mais pourquoi?
Mais je sais pas, déjà, j'ai un peu du mal à manger à table. Je mange à table, évidemment, comme tout le monde, mais... C'est pas quelque chose de très facile pour moi de pas manger avec mes intimes, de partager un repas avec des gens que je connais pas. Et puis après, avec cette idée que ces gens vont venir avec des questions et que je vais devoir livrer des choses assez intimes dans ce moment intime de la vie qui est la nourriture, je savais pas du tout comment faire avec ça. Et je lui ai répondu, mais d'accord, je veux bien déjeuner avec des gens différents tous les jours, mais sans les voir et sans manger.
Ah, d'accord, donc c'est déjà deux conditions en moins. D'où l'idée justement de vous retrouver dans un lieu anonyme, donc un lieu prêté par la mairie, hein,
voilà,
en l'occurrence.
Après,
alors, on sait pas trop, en fait, si
oui,
c'est
après...
la réalité que vous écrivez dans le livre, ou si c'est vraiment du domaine de la romancière que vous êtes.
Oui, je suis romancière, donc j'ai après retransposé, effectivement à peu de choses près vécu une expérience similaire, et après, j'ai retransposé ça, et donc ça se passe dans un appartement vide, prêté par la mairie, on imagine, avec un parquet flottant, quelques éléments qui restent de l'ancien locataire, en l'occurrence, un immense philodendron qui trône au milieu du salon, et qui va protéger ses confidences, qui va écouter avec moi ses confidences.
Bon, pourquoi un philodendron?
Parce que je trouve que c'est pour le mot philodendron. Je trouve que c'est un peu ridicule, quoi. Ça fait un peu dindon comme ça. Et j'aimais bien la présence un peu ridicule de cet objet monumental, vivant, et qui justement au début est un élément un peu ridicule de décoration, surtout dans cette pièce vide, et qui après se charge de toute l'humanité, de toutes les paroles de ces gens qui viennent se raconter. Donc peu à peu, ce philodendron ridicule et encombrant devient une aide, comme un ménage à trois, quoi, entre l'écrivain.
Oui, c'est un personnage en fait,
ça
le philodendron.
Un personnage,
hein. Complètement.
Ouais.
D'ailleurs, à certains moments, il disparaît du livre, et votre état d'esprit change, quoi, à partir du moment où il n'est plus dans la pièce.
C'est comme si les proportions changeaient, c'est que je me retrouve toute petite dans cet immense espace, sans la présence végétale, la présence amie de ces feuilles qui absorbent non seulement le gaz carbonique, mais aussi peut-être le côté dur des confidences qui aide à écouter, en fait.
Voilà, et puis parfois, d'ailleurs, vos interlocuteurs vous parlent du philodendron et vous conseillent de passer les feuilles à la bière. Alors, je ne sais pas si finalement vous l'avez essayé,
mais
cette technique-là.
Mais, je ne sais pas, c'est tout ce genre ce qu'on dit pour les caoutchoucs, les philodendrons, ça, il faut... Mais moi, je pense que c'est comme ça bouche les pores de la peau de la plante, quoi. J'ai l'impression que la bière, ça va faire comme un vernis, comme si on mettait un peu trop de vernis sur un tableau, et ça ne doit pas être la bonne solution, enfin, faut chercher.
Et c'est au pied de ce philodendron donc, que vous recueillez les paroles des volontaires qui se succèdent donc dans cet appartement, comme celui-ci. Le chapitre est intitulé « Les bouts de savon ». Nous sommes page 141 de votre livre.
Un jour, une amie m'a présenté à sa famille en disant que je venais d'un milieu modeste. Elle ne l'a pas dit devant moi, elle a profité du moment où j'étais aux toilettes. Je l'ai entendu en sortant. Il vient d'un milieu modeste, comme si la pauvreté avait un quelconque rapport avec la modestie, qu'il fallait s'en cacher. Et puis, dans milieu modeste, il y a modeste, mais il y a aussi milieu. Médiocre, moyen, milieu, pas milieu comme on prononçait chez nous. Milieu, en détachant bien le L entre les deux I. Je les ai rejoints à table, je n'ai rien dit du repas. Je l'ai bouclé, je m'étais rendu compte au moment de m'asseoir que j'avais oublié de me laver les mains et j'en souffrais. Les parents de mon ami allaient penser que dans mon milieu modeste, on ne se lavait pas les mains après avoir pissé pour économiser le savon. Et en plus, c'était vrai qu'on économisait le savon à la maison. Ma mère faisait fondre les queues de savonnette qu'elle récupérait chez ses patrons. Elle prétendait que ce n'était pas pour gagner 3 sous au point où nous en étions, mais par respect pour les bouts de savon pour ne pas qu'ils se perdent. Les choses ne devaient pas finir à la poubelle, c'était comme ça chez nous. Il fallait respecter les choses comme on respectait les êtres vivants. Vous trouverez peut-être que ce n'est pas une confidence, cette question de milieu, parce que ça concerne tout le monde. Mais justement, pour moi, une confidence, c'est une histoire que l'on garde pour soi, parce qu'elle concerne tout le monde. Si elle ne concernait pas tout le monde, on n'aurait pas besoin de la garder pour soi.
Vous êtes d'accord, Marie Nimier? Paradoxalement, une confidence, c'est une histoire qui concerne tout le monde?
Oui, c'est une histoire singulière qui vous a constitué. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois, qui est quelque chose qui vous constitue,
qui reste en vous,
qui reste,
même
qui
de
vous
façon,
définit, mais qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire, ce sont des choses parfois une phrase entendue, des choses assez banales finalement. Que les gens viennent raconter, enfin banal, non, elles sont essentielles pour eux, mais elles ne sont pas des choses extraordinaires. Personne ne vient me raconter la rupture avec son mari, avec qui, je ne sais pas quoi, enfin des choses comme ça, qui sont très importantes, la naissance d'un enfant. On ne vient pas forcément me raconter des choses comme ça, mais on vient me raconter des pensées, des phrases, oui, des choses qui sont souvent liées aux mots, je trouve. Puis alors, cette confidence, je trouvais assez intéressante parce que elle fait un pas de côté. On s'attend dans les confidences à des choses plus peut-être liées à l'enfance, mais psychanalytiques, ou voilà, où on va dire un trauma, quelque chose, mon père, ma mère, rien.
Il y en a quelques-unes,
évidemment, mais celle-là, elle raconte quelque chose qui me semble très important, c'est la violence sociale, en fait, et la violence qu'on peut recevoir quand on est jeune, et qu'on sent qu'on n'est pas exactement à la même place que sa compagne, par exemple, ou que son compagnon, puisqu'il y a aussi un récit comme ça d'un homme qui raconte que sa femme est beaucoup trop bien pour lui, et puis qu'un jour,
oui, et qui endort plus la nuit, quoi, tellement il est traumatisé par l'idée qu'elle pourrait le quitter parce qu'il n'est pas fait pour elle.
Mais c'est plus un regard social sur leur relation qu'un regard amoureux, et c'est quelque chose qui est assez souvent mis de côté, hein, dans les récits romanesques, enfin peut-être moins maintenant, il y a peut-être qu'en ce moment on reparle un petit peu de tout ça, mais c'est vrai que moi je sens qu'on est, enfin moi-même en tout cas, je me sens aussi bien constitué d'éléments familiaux, de manque, de gaieté, de tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, mais aussi d'un entourage, quoi, d'une langue déjà, d'une langue qui est ma matière, et puis d'un entourage social.
Mais alors justement, puisque vous parlez de questions sociales, Marie Nimier, est-ce que dans ces confidences-là, il y avait chez vous une volonté de sonder ce qui est à l'intérieur de chacun de nous? Est-ce qu'il y avait une dimension sociologique à votre travail qui est d'abord littéraire, on l'a compris?
Oui, alors moi, mon intérêt, oui, personnel, oui. Il y avait vraiment ça. Est-ce que je vais récolter autre chose que des petites histoires un peu comme ça, un peu... Et en fait, après, je suis devenue... mon oreille s'est affûtée, s'est aiguisée, et j'ai commencé à entendre des confidences partout. C'est-à-dire qu'il y a eu celles qu'on m'a racontées, mais il y a aussi finalement des confidences qu'on m'a déposées sur Internet, puis d'autres façons de récolter des confidences, même en moins anonymes, plus comme ça, dans la vie, lors de mes voyages, quand je parlais du projet que j'étais en train de faire. Tiens, les gens arrivaient et disaient, ah, mais moi, il y a cette chose-là, il y a cette chose-là. Et en effet, j'étais particulièrement sensible aux confidences qui sortaient un petit peu du domaine strictement familial.
Mais alors, l'anonymat, puisque vous l'évoquez, Marie Nimier, donc vous racontez dans le livre, hein, je ne sais pas si c'est la réalité ou si c'est la romancière qui parle, mais que vous arrivez donc dans cette ville. Bon, on ne sait pas trop de quelle ville il s'agit. Vous évoquiez Nantes comme point de départ, et c'est vrai qu'il y a le canal. Donc moi, j'ai pensé un peu au canal de Nantes à Brest.
Mais... Oui, mais non, parce que je pense que la ville que j'ai évoquée dans le livre est beaucoup plus petite. Hein. On sent une petite ville avec une médiathèque.
Voilà, plutôt une petite ville dans la banlieue d'une grande ville, quelque chose comme ça. Vous pouvez pas me dire de.
Non, franchement, c'est non parce que je
parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà, tout simplement. Donc il y a un lycée, il y a un centre d'apprentissage, il y a un supermarché, une maison des associations, une bibliothèque. Donc on a quand même l'image de quelque chose qui petit à petit sourd à travers vos pages. Donc on ne sait pas précisément où l'on est, on ne sait pas évidemment qui parle aussi, puisqu'il n'y a pas de prénom, à une ou deux exceptions près, hein, qui arrivent dans vos lignes. L'anonymat, cette idée d'anonymat, est-ce qu'elle était indispensable pour vous ou est-ce qu'elle était indispensable pour eux, pour tous ces gens qui... sont venus vous raconter ces confidences.
Indispensable pour eux, sûrement. S'ils racontaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais raconté à personne, ils ne voulaient probablement pas que leurs proches puissent les reconnaître. Donc, toutes les confidences ont été amplement déguisées. C'est-à-dire que quand c'était une femme qui se confiait, je vais raconter que c'est un homme, je vais vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses.
Mais ça, vous l'avez décidé en cours de rédaction ou c'était dans le contrat de départ?
C'était dans le contrat. Les gens, enfin, d'abord, certaines, je les ai pas retenues parce que les gens me disaient « Ah, mais ça, faudra pas le dire, ça, faudra pas le dire. » Il fallait tellement pas le dire que je me suis dit « Bon, très bien, ils m'ont raconté quelque chose et ça restera entre nous. » Et c'est dommage parce qu'il y en avait, je pense, et une qui était absolument formidable, qui se passait dans le domaine de la mafia en Italie. Et j'aurais bien aimé parce que ça sortait de la France, parce que tout d'un coup, ça apportait autre chose. Mais il fallait pas dire ci, il fallait pas dire ci, il fallait surtout pas dire que c'était en Italie. Alors tout d'un coup, j'avais plus aucun élément.
Mais ça pourra peut-être vous servir dans un prochain roman, on sait jamais.
Si vous voulez, je suis pas en manque d'imaginaire, je crois que c'est pas ça. Donc ce qui était intéressant quand même là, c'est de se baser sur des récits anonymes pour pouvoir être tout à fait libre par rapport aux gens et tout à fait libre moi-même de la transformation. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va venir me dire ah oui, mais c'est pas comme ça que je l'ai raconté, mais vous êtes passé complètement à côté de mon histoire. Je suis sûrement passé à côté de plein d'histoires, mais moi j'ai retenu ce qui m'a inspiré. J'ai mis en lumière une facette de la confidence, probablement, et parfois en ne retenant qu'un mot. Et j'ai inventé une histoire autour de ce mot, vous voyez. Mais ça, c'était bien, bien spécifié au départ. Et je pense que les gens qui sont venus venaient pour connaître cette expérience littéraire. Et que ça les amusait. Enfin, le mot amuser est un petit peu futile parce que parfois c'est très lourd. Mais ça les intéressait, voilà, de voir comment ce qu'ils allaient déposer allait être retransformé.
Et lorsqu'ils entraient dans la pièce, ils étaient réellement face à une femme qui avait les yeux bandés?
Et à peu de choses près.
Un peu de choses. Mais pourquoi c'était important les yeux bandés? Parce que vous avez mis en épigraphe du livre cette phrase, il y a certaines choses que l'on voit mieux les yeux fermés, donc presque les yeux bandés.
Oui. Alors, très personnellement, ça m'était plus facile d'écouter sans voir les gens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si j'avais croisé le regard de ces personnes qui se confiaient, je leur devais la vérité. J'aurais été beaucoup moins libre d'inventer après. Parce que c'est comme si, quand on croise le regard, on est dans un pacte de vérité. Quelque chose comme ça pour moi. J'aurais été très embarrassée, surtout dans les confidences très lourdes, comme j'en ai parfois reçu, de décaler, d'inventer autour. Donc déjà ça, pour moi, c'était une chose. Pour celui qui venait se confier, je pense que c'était un peu dur de pas voir les yeux de la personne.
Ça peut déstabiliser, bien sûr.
Un peu déstabiliser, mais en même temps, ça les renvoyait à eux-mêmes, du coup. Ils étaient plus là pour séduire, ils étaient plus là pour voilà. Ils ne pouvaient dire qu'une chose quelque chose de très émouvant pour eux, je pense. Ils pouvaient vraiment exprimer ça et ils étaient plus dans une espèce de séduction quand il y a un regard partagé, quand il y a, voilà. Après, ça, c'est ma façon de faire. Oui. Je pense que chacun a son rapport avec la vue.
Mais quand vous écrivez, Marie Nimier, les yeux bandés, les mots ont une autre saveur. C'est vraiment ce que vous avez ressenti sur le moment. Les mots prennent une forme, un goût. Différent lorsqu'on ne voit pas ceux qui les prononcent.
Écoutez, on est en train de l'expérimenter là, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui nous imaginent et qui nous voient pas. Alors je sais pas comment ils m'imaginent. D'ailleurs, peut-être, probablement, ils ne m'imaginent pas. Mais mais ils sont avec la voix. Justement, ils m'imaginent pas. Vous ne m'imaginez pas, chers auditeurs, mais vous êtes avec ma voix, avec mon timbre de voix, et vous êtes avec mes mots, avec cette chose qu'on partage là, en ce moment, les mots. Et donc ça c'était formidable pour moi parce que je pouvais comme ça prendre des mots au passage que j'entendais et puis en faire des histoires.
Mais alors pour rester sur la conversation, Marie Nimier, à chaque fois c'est vous qui guidiez la conversation, il y avait des questions, il y avait des relances, vous saviez précisément où vous alliez, vous adaptiez aux mots que vous entendez, comment ça se passait concrètement?
Alors,
je
vais vous décevoir, mais il n'y avait pas de conversation vraiment, c'est-à-dire que je ne voulais pas leur tirer les vers du nez, j'étais pas du tout là en tant que journaliste, ou j'étais là pour entendre ce que justement eux voulaient me confier. Et surtout pas autre chose.
Donc vous n'essayez pas de les mettre à l'aise?
Si, peut-être de les mettre à l'aise un peu, si je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose, voilà, que les gens n'arrivaient pas. Alors oui, je pouvais... J'étais naturelle, disons.
Oui.
Je jouais
mais
pas
ça,
un rôle.
Mais ça n'est pas de rebondir, d'aller... de guider quelqu'un sur un chemin qui n'était pas le sien à la base.
Voilà, parce que, vous savez... Bon, on me parle souvent de vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais en fait, ce que me racontaient les gens, je n'ai aucune preuve que ce soit la vérité, ni même leur vérité. Ils sont peut-être venus me raconter quelque chose qu'ils ont inventé. Et d'ailleurs, une fois, oui, quelqu'un est venu et on a commencé à raconter tout ça. Puis après, au moment de partir, m'a dit, oui, bon, le début, c'est vrai, mais alors après, j'ai un peu inventé. Moi, j'ai dit, très bien. Ce qui est important, c'est ce qu'ils veulent me raconter, finalement. C'est ça qui est riche. Et j'avais pas du tout envie de les brusquer ou de juste. Je me posais parfois des questions pour m'assurer que j'avais bien compris. Quelquefois, quand on me parlait, je sais pas, de religion ou de choses qui sont passées avant ma naissance, j'avais peut-être pas tous les éléments pour comprendre. Donc, je posais des questions à ce moment-là.
Donc, pas d'enregistreur? Sur la table?
Non, j'ai commencé en enregistrant, mais finalement ça fait une matière tellement énorme. Je trouve que c'est mieux. Enfin, moi, pour le projet que j'avais, c'était mieux de travailler de mémoire.
Donc, c'est-à-dire que chacun quittait la pièce et lorsqu'il partait, vous preniez des notes derrière son dos, mais pas en sa présence, pour pouvoir garder tout ça.
Oui, pour avoir les mots, pour avoir ça en mémoire, et puis après, je pouvais retravailler avec juste cette matière un peu fragmentaire. Hein. C'est pas du tout un projet de journaliste.
Enfin, ah non.
C'est vraiment, on est très très loin de ça et. On va dire que c'est un prétexte à raconter des histoires et des histoires qui peuvent toucher tout le monde, justement. C'est ça. Qui sont pas des histoires que j'ai décidé de raconter tout à fait.
Même si j'ose le dire, ce n'est qu'en confidence. Quelque chose me déchire quand elle rit, quand elle danse. Non, ce n'est pas la jalousie. Et si je la regarde ainsi, c'est toujours c'est de l'amour. Comme un enfant que l'on adore. quand il dort. J'ai peur qu'elle meure. Je ne peux retenir les avions qui l'emportent. Je voudrais, sans le dire, dormir devant sa porte. J'ai peur du temps et de l'espace, des jours tombant, des gens qui passent. Je ne sais pas ce qui se passe. Comme des enfants qui jouent ensemble, je la regarde et il me semble qu'on se ressemble par mégarde.
Confidence, Julien Clerc sur RFI, dans Vous m'en direz des nouvelles avec la romancière Marie Nimier pour Les Confidences parues chez Gallimard. Et dans la première confidence, donc extrêmement vite, hein, Marie Nimier, il y a cette phrase « Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça ». Est-ce que vous avez compris pourquoi tous ces inconnus sont venus vous voir, sont venus vous ouvrir leur cœur ?
Oui, c'est étrange. Ce besoin de partager, quoi, au-delà... au-delà du monde qu'ils vivent tous les jours, au-delà des choses qui... comme un pas de côté. Hein, le festival dans lequel auquel je participais s'appelait Bifurcation, je pense que c'est ça. Hein, c'est dans ce cadre-là, en tout cas, que les premiers confidents sont venus faire un pas de côté. Après, pour les confidences suivantes, je les ai quand même pas mal sollicités en expliquant, et pas seulement en France d'ailleurs, en expliquant le projet et tout ça. Et j'ai reçu aussi des confidences par le net, en précisant bien qu'il fallait, c'était pas une histoire, il fallait pas rédiger quelque chose, juste me donner quelques mots, quelques clés, etc.
Mais surtout ne signez pas.
Surtout,
hein, c'est
marqué surtout ne signez pas. Et pourquoi ils venaient?
Pourquoi est-ce qu'ils sont venus prendre le temps? Parce que déjà, il faut prendre le temps, ensuite le faire effectivement en face à face, se mettre un peu à nu. Peut-être certains effectivement ont-ils inventé, comme vous le disiez tout à l'heure, mais ça demande quand même un effort. Ça demande à la fois physique et psychologique finalement.
Oui, je crois que ça les a beaucoup occupés les jours précédant la rencontre, parce que
vous aviez l'impression qu'ils avaient préparé.
Ah oui, complètement, oui. Et souvent ils me disaient oui, alors j'aurais pu vous raconter autre chose, mais finalement là dans le tram en arrivant, j'ai pensé que c'était ça que j'allais vous raconter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la décision de venir déposer une histoire, et après. Il y a une histoire qui arrive en général assez vite. Vous pouvez vous poser la question vous-même. Si j'étais obligée de le faire ou si j'avais décidé de le faire, qu'est-ce que je raconterais? Alors, il peut y avoir tout de suite quelque chose qui arrive. Et après, les autres, les souvenirs reviennent, et tout le monde a, je dirais, 3-4 choses à raconter. Et comme moi, je recevais les gens très, très peu, hein. Ça, il faut peut-être quand même le préciser. C'était 5-10 minutes. Il n'était pas question de raconter sa vie. Il était question de raconter une chose. Il y avait cette histoire du choix, quoi. Raconter cette chose-là. Et ça, je trouve ça assez beau, et je pense que c'est ça, et c'est peut-être ça aussi, c'est très important dans le projet, que ce soit pas écouter les gens parler, parce que là, je me serais noyée dans leur vie, et puis j'aurais pas suffi, deux oreilles n'auraient pas suffi à entendre tout ça. Mais une chose, une petite chose. Et je me disais, ces gens, alors ils ont décidé de me raconter ce truc intime qu'ils n'ont jamais raconté à personne, et puis ils vont se coucher à côté de leur femme, de leur mari, de leur compagnon, et puis ils vont avoir ça dans la tête au moment de s'endormir, puis le matin ils vont se lever, ils vont s'habiller, et ils vont venir s'asseoir en face de quelqu'un qui ne verra même pas la couleur des chaussures, ni des cheveux, qui va même pas savoir quel sera son âge et tout, et ils vont déposer des mots. C'est comme écrire un petit mot, et puis il y a l'artiste Sophie Kahl, qui est une artiste plasticienne que j'admire beaucoup, qui a fait un projet comme ça autour du secret, des confidences. Les gens venaient lui donner un récit, mais elle, ce qu'elle faisait, le récit était écrit, et puis elle l'enterrait dans une tombe. Je serais muette comme une tombe. Moi, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire, ce secret, au lieu de le garder secret, je vais le faire fleurir. Je vais le faire grandir. Comme les philodendrons, il va y avoir des ramifications, des feuilles, des couleurs différentes.
Et donc, pour l'enjoliver?
Non, pas du tout. Non, pour aller à, non, sûrement pas pour l'enjoliver. Pour aller au cœur de quelque chose d'une émotion, de l'humanité. Je sais pas, moi, c'est comme une espèce de, ce livre, c'est comme, il y a une cinquantaine de confidences et une cinquantaine d'émotions différentes, de place dans le monde, de façon d'être dans le monde, de peur, de joie, de rêve. Parce qu'il y a beaucoup de rêves aussi, hein, des gens qui viennent dire à moi, je rêve de, ou j'ai rêvé de, ou.
Mais on est de là de la retranscription, hein, puisque vous savez raconter, évidemment, le souvenir ou la confidence, vous savez donner du rythme, vous savez mettre de l'émotion, parfois des larmes, parfois du rire, mettre du suspense aussi, hein, les titres que vous avez choisis, ils sont toujours plein de mystères. Par exemple, il y a le peuplier. Alors le peuplier, bon, ça peut être sur n'importe quoi, et puis on se rend compte, en fait, c'est une affaire de saisie d'huissier, voilà, ouais. Mais vu à partir d'un personnage qui est perché sur le peuplier, qui surplombe la maison. Parlez-nous du titre, justement, oui. De l'art du titre, Marie.
Oui, ben, on peut reprendre le peuplier, par exemple, qui est un récit qui m'avait beaucoup frappé et qui fait partie de ces récits de société, je dirais. C'est-à-dire comment une situation économique, sociale, une famille qui est expulsée de sa maison et comment une femme, 50 ans, 60 ans après, parce que je pense qu'elle avait un certain âge, est venue me raconter ça. Elle me l'a raconté elle-même avec cette image-là du haut et du bas. C'est-à-dire qu'elle est, dans le peuplier et elle voit la maison se vider. Et moi, tout de suite, ce que j'ai entendu dans peuplier, c'est le mot peuple. Et je suis partie comme. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière, disons. C'est-à-dire, justement, ce côté. Cette famille qui était plus assez riche pour s'offrir cette maison et qui allait finir dans un appartement entassé les uns sur les autres sans jardin. Bon, c'était pas une grande maison, c'était pas une très belle maison, mais bon, il y avait un jardin, il y avait ses peupliers. Et j'aimais bien l'image de cette petite fille dans cette haie de peupliers, comme si elle était protégée par plein de, comme un peu le philodendron aussi, hein, l'aspect végétal c'est important dans mon livre. Et donc j'ai appelé ça le peuplier à cause de ça. Et en fait, dans la nouvelle, on peut appeler ça nouvelle.
Ah voilà, c'est
monologue.
Important parce que je voulais savoir justement comment appeler effectivement chaque chapitre. C'est le mot nouvelle que
peut-être,
vous préférez retenir,
oui,
hein,
oui,
parce
peut-être.
Que c'est vrai qu'il y a une attaque, il y a un développement, et puis il y a une chute. Hein, c'est
voilà.
Un peu
donc on va dire une nouvelle, il n'y a pas le mot huissier,
non.
Il n'y a pas le mot expulsion. Voilà, souvent j'utilise pas les mots qu'on attend, c'est-à-dire que je raconte pas directement la chose. Je dis pas c'est l'histoire d'une famille qui est vécue de la perspective d'une petite fille qui voit sa maison saisie avec les objets saisis. Non, on est dans le regard de la petite fille, elle a pas les mots pour dire ni expulsion, ni huissier, etc. Elle dit juste qu'il y a deux hommes en costume cravate et puis que les objets sortent de la maison. Et moi j'ai trouvé cette image comme ça pour raconter ça, que c'était une maison qui dégueule, quoi. Une maison qui vomit comme une poche que l'on retourne, tous les objets. C'est comme ça que j'imaginais que la petite voyait les choses.
Voilà, le processus est là, quoi. Vous partez des mots des autres et puis à travers vos mots à vous, eh bien, voilà. Vous suggérez aussi des images et des mots à ceux qui vous lisent. Vous comparez d'ailleurs, Marie Nimier, un écrivain à une vache. Alors c'est pas tout de suite la première comparaison qui peut comme ça nous venir à l'esprit. C'est page 136 du livre, vous écrivez « L'écrivain tient de la vache ». Combien d'heures lui faut-il pour métamorphoser un carré de prairie en un litre de lait?
Mais bon, il faut peut-être quand même
ruminer
donner...
comme ça.
Oui, il faut donner la clé. J'habite en Normandie, donc les vaches, si vous voulez, je suis proche de ces, je me sens très proche de ces animaux. J'aime beaucoup leur regard, leurs grands cils, leur regard velouté et ce boulot qu'elles font tous les jours, et en remâchant et en effet.
En retournant sa langue, la langue de la vache, on en arrive à la langue française là.
Voilà.
Limier, vous voyez.
Et oui, ben voilà, c'est un peu ma façon de voir, l'écriture. Enfin, moi j'ai ça. Je lis et je relis et je relis. À chaque fois que mes yeux passent sur une phrase, elle la modifie légèrement pour arriver au texte final. Je suis quelqu'un d'assez, je suis assez besogneuse, vous voyez. Je suis un peu comme une vache comme ça dans son pré qui regarde les trains passer et qui travaille mais doucement, 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 jusqu'à donner quelque chose qui n'est pas exactement ce que j'ai mangé. C'est-à-dire, c'est pas exactement ce qu'on m'a raconté. C'est quelque chose qui tient plus du lait que de l'herbe.
Nous sommes page 111 de votre livre, le chapitre s'intitule « Sous prétexte ».
Enfant, quand je ne voulais pas aller chez des amis, je prétendais que ma mère m'empêchait de sortir. Il fallait que je reste à la maison, oui, même le week-end, même pendant les vacances. Je ne détestais pas qu'on me plaigne, ça me donnait de l'importance. Le stratagème fonctionna jusqu'au jour où les parents d'une de mes camarades de classe proposèrent d'appeler ma mère pour la convaincre de me laisser venir à l'anniversaire de leur fille. Prise de panique à l'idée que l'on découvre mon mensonge, je passais au stade supérieur, prétextant cette fois que mon père était gravement malade, qu'il avait besoin de moi jour et nuit pour lui préparer à manger et le soigner, surtout le week-end, ma mère étant souvent absente à cause de son travail. L'information remonta jusqu'à la maîtresse, puis l'infirmière, puis la psychologue scolaire, et mes parents finirent par être contactés. Leur réaction me stupéfia. Ils ne se fâchèrent pas, ne crièrent pas, ils me dirent juste que je devais apprendre à assumer mes désirs, sinon j'allais être très malheureuse dans la vie. Si je n'avais pas envie d'aller aux anniversaires, c'était parfaitement mon droit. J'ai éclaté en sanglots. Ma mère aussi. On s'est prise dans les bras. On a pleuré, pleuré. Et quand les larmes se sont arrêtées, mon père a proposé qu'on aille au cinéma. On a aimé le film et mangé des pop-corns. C'était bien. Un an plus tard, il était mort. Il avait effectivement une maladie grave, mais ne voulait pas me le dire pour que l'on puisse profiter l'un de l'autre jusqu'au dernier moment.
Voilà, là, c'est vraiment la construction qu'on évoquait à l'instant, l'attaque, le développement et la chute qui est effectivement étonnante et dramatique. Vous vous mettez à la place de la confidente ou du confident, parfois en écrivant à la première personne, parfois au contraire, Marie Nimier, vous utilisez la troisième personne avec une forme de prise de distance, comme ça. Qu'est-ce qui vous fait choisir dans telle ou telle histoire, entre telle et telle option?
Il y avait une question de... Ça a été choisi souvent après. C'est-à-dire, j'ai presque tout écrit à la première personne d'abord. Et après, il y avait vraiment, alors là, une construction purement littéraire, hein, avec une envie de changer le rythme et aussi de garder présente la romancière. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit là, surtout au début, qu'elle soit là, mais qu'elle n'intervienne pas tellement, peu, qu'elle s'efface derrière la parole des autres. C'était un peu ça mon idée, comme ça, la structure du livre. Et puis que petit à petit, il y ait un renversement. C'est-à-dire qu'au début, il y a juste la parole des autres. Alors, il faut quand même rappeler un petit peu qu'elle est là, parce que sinon, si elle va quand elle apparaît, on va se dire, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe là? On l'avait oublié, mais pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là avant? Pourquoi tout d'un coup elle se met à gigoter comme ça et à parler d'elle-même alors qu'on l'avait complètement oublié, hein? Donc voilà, il fallait être un tout petit peu là au début aussi, donc en passant à la troisième personne, c'est-à-dire c'est l'auteur qui raconte ce qu'elle entend, on suggère qu'elle est là, et petit à petit, cette romancière va se révéler à travers la parole des autres. Et petit à petit, son image va se dessiner, on va comprendre un peu plus qui elle est, et son personnage va se dessiner, et il va aussi raconter des choses, et dire comment elle perçoit les choses, et même à un moment, elle en peut plus d'entendre tout ça, elle va se promener, voilà. Donc elle commence à exister vraiment, son corps commence à exister jusqu'à la... Je vais peut-être pas révéler
oui,
la
non,
fin.
Oui, mais c'est important parce que ça veut dire que l'ordre des chapitres a son importance pour vous. Vous n'avez pas construit ce recueil de nouvelles, pour reprendre ce mot-là, de façon linéaire par rapport évidemment à tous les récits que vous avez reçus. C'est un récit lui-même construit finalement recueil de nouvelles.
Ouais. C'est très construit, ouais. C'est construit
important au niveau du fond, c'est important au niveau de la rythmique aussi. Il y a des chapitres qui sont extrêmement courts, hein, qui parfois font 3, 4, 5 lignes, et puis des chapitres qui sont un petit peu plus longs, on va dire 3 pages, hein, oui. 4 peut-être maximum. Y a toute une musicalité, hein, aussi
oui,
qui,
c'est ça,
qui ressort
un rythme.
Du livre.
Et je pense que c'était important parce que sinon on aurait été, je pense, dans une consommation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a ce côté qui peut, moi qui m'aurait agacé, quoi. Enfin, j'aurais pas aimé produire ça, quelque chose qui soit à consommer. C'est-à-dire, on consomme une histoire et puis une autre histoire et puis encore une autre histoire et puis encore une autre histoire. Un peu, le côté les gâteaux apéritifs qu'on ingurgite comme ça, on peut pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on ait fini la coupelle. Et j'avais vraiment envie de freiner ça et qu'on soit pas dans le voyeurisme et qu'on s'engage, quoi. Qu'on s'engage profondément dans le récit de chacun et qu'on prenne le temps de les apprécier. Et ça, c'est la construction qui fait ça.
Mais parfois, il y a des récits qui à la fois se suffisent à eux-mêmes, mais dont on se dit, Marie Nimier, qu'ils auraient pu aussi servir de base à un roman beaucoup plus large. Par exemple, il y a le récit de cet homme qui est traumatisé après le suicide d'une femme avec il a passé une nuit. Et elle se suicide, elle se jette en haut d'une falaise le lendemain de leur nuit d'amour. Là, on se dit, on n'est pas loin du roman.
Oui, et surtout qu'il est traité de façon très romanesque. Enfin, pourquoi c'est traité comme ça, de façon très littéraire, justement, cette aventure, ce drame? Parce que cet homme vient en disant, j'aimerais que vous écriviez quelque chose pour qu'on se souvienne d'elle. J'aimerais qu'il y ait une certaine... certaine forme, un hommage, quelque voilà. chose comme ça. Donc il vient
il
déposer.
Vous confie une forme de mission.
C'est une mission, voilà. Donc moi, j'ai pris ma plume, ma plus belle plume, pour en faire un poème finalement. Et puis j'ai inventé l'histoire de cette femme, et j'ai essayé de et sans que ce soit quelque chose de avec les violons et tout ça, quoi. On est quand même dans une réalité assez crue et cruelle, puisque cette femme qui va se jeter de la falaise, elle devait pas être je veux dire, c'était pas tout rose, quoi.
Non.
Il n'était pas question de faire quelque chose de tout joli, mais au moins, voilà, prendre le temps de se souvenir d'elle. Et puis elle m'a rappelé, enfin, ce personnage m'a rappelé une amie aussi de lycée. Non, pas de lycée, d'études en théâtre. Qui s'est suicidée aussi, et qui était cette actrice qui a joué dans Les ailes du désir, Solveig, et qui jouait avec des ailes dans le dos sur le trapèze dans le film de Wim Wenders, et qui est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappée, beaucoup touchée aussi, cette femme qui était cette jeune fille qui était la beauté même, et puis qui est morte et qui s'est suicidée, et donc j'ai beaucoup pensé à elle en écrivant ça aussi. Donc voilà, c'est là où bah je mets les choses que je connais pour révéler des choses qu'on m'a racontées.
Je sais que cette fois c'est la fin. Je sais que l'on n'y peut plus rien. Je sais, mais je ne peux pas croire. Je sais qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai peur, si peur seule dans ma vie. J'ai froid, si froid tout seul la nuit. Je pleure de haine au petit jour. Je te hais en gémissant d'amour. Oh, j'ai si mal.
Claude François dans VMDN sur RFI. Claude François que l'on croise, Marie Nimier, au détour d'une confidence dans le livre. Et là aussi, on se dit qu'on n'est pas très très loin du roman. Elle a vraiment existé, cette rencontre, Marie Nimier?
Peut-être c'était un autre chanteur ou un autre personnage public qui était évoqué par la personne qui me faisait la confidence.
Ah, vous êtes caché derrière Claude François et son suicide,
oui.
Parce que c'est une confidence qui se rapporte à la mort de Claude François.
Alors, que tout le monde connaît. C'est-à-dire, je me suis caché derrière quelque chose que tout le monde connaissait. J'ai pris cette chose publique, hein, de la mort de Claude François, pour raconter une histoire qui concernait quelqu'un d'autre. Mais parce qu'en fait, il y a un objet volé dans l'histoire.
Voilà, oui.
Et donc, c'était pas possible dans mon roman de le dire. Ça aurait pu porter à conséquence, donc j'ai réinventé dans une autre situation.
Mais il y a vraiment un objet que cette personne vous a donné, que vous avez gardé.
Voilà.
Voilà, c'est pas un recours bocile comme dans le livre, mais c'est autre chose.
Mais ce que je lis, je trouve dans la nouvelle, cette histoire de recours bocile, c'est que c'est la chose la plus proche du regard, c'est-à-dire qu'on imagine la personne qui met cet objet, elle capture quelque chose du regard, et donc voler le recours bocile et me l'offrir, c'est de me donner un regard.
Voilà, à propos,
j'aimais bien.
À propos d'objets, il y a aussi un autre objet qui s'appelle une poupée. C'est le titre du chapitre. Nous sommes page 118 du livre.
Il m'avait donné ses clés comme on offre une alliance. Vous ne pouvez pas savoir pour moi ce que ça représentait. J'étais fière comme un pou. Je l'ai porté en sautoir. Je l'ai montré à tout le monde. Un soir, j'ai débarqué à l'improviste avec du champagne. Je voulais lui faire une surprise. Et qu'est-ce que je sens ? Une odeur de javel dans l'entrée. On se serait dit à la piscine. La chambre, nickel. Le lit tiré à quatre épingles. Lui, qui était plutôt du genre bordélique, les t-shirts repassés. Vous imaginez repasser des t-shirts ? La planche était encore dans la cuisine, la pile de vêtements toute chaude. J'ai compris que quelque chose se préparait. Il a été très gentil, on a couché ensemble. Le lendemain, au réveil, il m'a annoncé que c'était fini entre nous. Si ça ne m'embêtait pas, il aurait aimé récupérer les clés. Non, ça ne m'embêtait pas. Je les ai jetées dans le vide ordure. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une poupée qui traînait sur l'étagère du salon. J'étais en colère, très en colère. Une poupée de chiffon sans yeux, sans bouche, sans nez, que j'avais gardée de mon enfance. Je l'ai piquée avec des aiguilles à tapisserie, je l'ai transpercée violemment et je l'ai posée sous la lampe, sur la table de nuit, pour l'avoir toujours à portée de main. Les jours passaient, il ne téléphonait pas, ne répondait pas à mes appels. La poupée s'avachissait. J'ai continué à la piquer régulièrement, une fois à la tête, une fois au cœur, une fois au sexe, et je recommençais, tête, cœur, sexe. Quelques semaines après la séparation, je suis allée dans son quartier. Je voulais le revoir au moins une fois, et je l'ai revu tout à fait par hasard, mais pas dans son quartier. J'étais dans le tram et lui sur le trottoir de l'autre côté de la place. Il marchait tranquillement, pas troué ni rien. J'étais spectatrice d'un homme que j'avais aimé. C'était l'objet de mon amour et je le voyais s'éloigner. Ça a ravivé mes sentiments. Je me suis mise à lire tout ce que je pouvais trouver sur la magie noire. J'étais obsédée par la chose. J'ai même pris le train jusqu'à Strasbourg pour aller visiter un musée consacré au vaudou. J'ai aussi lu des bouquins sur la passion, la jalousie. C'est comme ça que je suis tombée sur « L'Occupation », le livre d'Annie Ernaux. Punaise, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, Annie Ernaux, hein. Mais dans ce texte, elle écrit qu'elle s'est interdit ça, les fétiches, les mauvais sorts. Elle avait été tentée, mais elle avait résisté. Elle ne voulait pas s'abaisser jusque-là. Elle trouvait ça crétin ou débile, je ne sais plus. Alors je me suis ressaisie. J'ai recopié plusieurs fois le passage en question, comme si le stylo pouvait remplacer les aiguilles à tapisserie. À la fin, j'étais décidée. Si Annie Ernaux ne l'avait pas fait, je n'avais pas le droit de le faire. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai arrêté la sorcellerie. Comme ça que j'ai récupéré ma dignité, grâce à la littérature, grâce à Annie Ernaux.
Vous y croyez vraiment, Marie-Ninée, au pouvoir rédempteur de la littérature?
Ben, autant qu'au pouvoir des petites aiguilles dans une poupée. Et exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un transfert, il y a quelque chose de... Oui, oui, absolument. Absolument, et je pense que cette femme qui commence à lire tout ce qu'elle peut trouver sur la jalousie, et c'est comme ça qu'elle va se sortir de cette histoire d'amour, qu'elle va décaler ça, qu'elle va la comprendre, qu'elle va arriver à continuer sa vie et aller ailleurs.
Mais ce pouvoir rédempteur-là, est-ce qu'il a été aussi celui des confidences, celui du livre pour vous, Marie Nimier? Parce que, bon, on va pas évoquer en détail ce que vous racontez à la fin du livre, mais c'est vrai que dès le départ, on se dit, bon, ben, il va y avoir peut-être des confidences de Marie Nimier, quoi.
Oui, alors,
c'était
en fait,
ça aussi l'un des objectifs?
Oui, il y en a beaucoup plus que vous ne le croyez, en fait.
En fait, elles sont à chaque page, vos confidences. C'est ça que vous allez nous dire. Dans voilà, chacune des nouvelles, il y a un petit peu de vous.
Oui, et puis même dans certaines nouvelles, il y a beaucoup de moi. Enfin, certaines sont mes confidences.
Vous vous êtes glissé à l'intérieur de vos propres personnages.
Oui, voilà. Il faut, ça c'est une confidence. Il ne faut pas le dire à tout le monde, mais c'est vrai.
Ça reste entre nous et nos quelques millions d'auditeurs, rassurez-vous. Voilà.
Mais je, par exemple, en réécoutant cette nouvelle, il y a un truc qui me fait vraiment rire. Et là, je reconnais ma façon d'écrire, en fait, si on peut le définir. C'est quand elle dit punaise.
Ah.
Parce que, en fait, ce mot, il n'a rien à faire dans ce récit plutôt policé, plutôt bien écrit. Enfin, voilà.
Oui, il arrive comme ça d'un coup, et à la lecture,
punaise,
ça se sentait.
Ça s'entend, quoi. À la lecture, on l'entend encore plus. Et en fait, quand on dit punaise, bah c'est comme une aiguille, une punaise. C'est-à-dire, c'est quand même ce travail sur le langage, quoi, qui révèle les choses. Ça, c'est vraiment, ça me fait plaisir. Quand je l'entends, ça me fait plaisir, en fait. C'est-à-dire qu'on l'analyse pas forcément en le lisant, mais quand on s'en rend compte, ça saute aux yeux. Et ça aurait pu s'appeler punaise.
Voilà, punaise, un vrai plaisir de vous lire. Marie Nimier, de vous recevoir aujourd'hui dans VMDN. Les confidences chez Gallimard, merci beaucoup.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Direction le Cambodge à présent, à l'occasion des 25 ans de Pharpon Le Selpak, dans un pays où les formations artistiques sont encore peu nombreuses et les carrières artistiques pas toujours encouragées. Ces écoles de phare installées à Battambang dans le nord-ouest du pays forment des jeunes de tous milieux aux arts visuels et aux arts du spectacle. La semaine dernière, les artistes de phare ont quitté Battambang pour donner le coup d'envoi d'une année de célébration dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh. 3 jours de spectacle, de musique et d'acrobatie auxquels Juliette Buchez a assisté pour nous.
Derrière des jongleurs de feu, sous le regard amusé de clowns, Tam Tam étale de la peinture sur une toile, puis la passe sous la flamme d'un chalumeau. Les couleurs sont ravivées avant de ternir par endroits. Étudiant en graphisme à Phare, Tam Tam s'est porté volontaire pour les 25 ans de l'école.
C'est la première fois que je fais ça aujourd'hui. Il ne faisait pas si chaud et je voulais que mes sentiments se voient sur l'image. J'aime le graphisme comme la peinture. Quand je peins, je peux me connecter à l'œuvre.
500 étudiants se forment dans les deux écoles d'art où l'on enseigne le graphisme, la peinture, l'animation, mais aussi le cirque, la danse ou la musique. Comme Louis Chanlun, qui joue de plusieurs instruments traditionnels et veut en faire son métier.
Si je n'étais pas venue étudier à Phare, qui sait, peut-être que j'aurais arrêté l'école pour devenir ouvrière dans une usine de textile. Je n'aurais pas pu gagner assez d'argent pour étudier. J'ai un revenu quand je joue dans les spectacles de Phare et ça me permet de poursuivre mes études.
Car avec ses spectacles écoles rémunérées, ses cursus gratuits ou ses bourses, l'école se veut résolument rester ouverte à quiconque s'intéresse aux arts, quel que soit le milieu d'origine. Un aspect social qui figure dans l'ADN de l'école, car Phare, c'est une histoire qui commence à la fin des années 80, dans un camp de réfugiés en Thaïlande, lors de la guerre civile cambodgienne. C'est la rencontre d'une volontaire française avec de jeunes adolescents, à qui elle donne du papier et des crayons. Comme le racontent Kundet, Bandols Ray et Tovunta, trois des fondateurs de Phare.
Après l'accord de la paix à Paris, 23 octobre 91, les réfugiés doivent retourner au Cambodge. Du coup, nous, on a grandi dans le camp des réfugiés. On ne connaît pas le Cambodge. On a eu peur de retourner, je ne sais pas comment on fait, parce que nous, on veut continuer avec des activités, des dessins et donner des cours aux enfants.
Avant d'être une école reconnue, Phare voit donc le jour en 1994. C'est alors plus un centre de loisirs où les ateliers se concentrent sur le dessin et la peinture.
Les cours ont commencé. En 1995, comme nous, on n'a jamais enseigné, on ne connaît pas de pédagogique, on ne connaît pas vraiment l'histoire de l'art et tout ça, mais on fait comme on peut.
Et c'est en 1998 que s'ajoute une autre discipline phare de l'école, celle du cirque.
Ça a commencé depuis à zéro, jusqu'au présent, on a l'école, une vraie école avec un vrai curriculum, mais il y a aussi des artistes qui finissent la formation, ils ont travaillé dans le monde entier, en France, et au Canada, et aussi avec le Cirque du Soleil. On a à peu près 10 spectacles différents où j'essaie de montrer l'histoire du Cambodge, la vie cambodge.
Et parmi les numéros présentés à Phnom Penh, il y a le début de cette performance. Entouré de danseurs torturés, un peintre barre soudainement un Bouddha d'une croix noire avant d'entamer une nouvelle peinture. Un symbole. Pas de place pour la religion sous le régime Khmer Rouge. Mais les spectacles du cirque Phare présentent aussi un Cambodge plus léger. Heng Dara préfère justement les numéros mi-comiques, mi-acrobatiques, comme celui qu'il présentait le week-end dernier.
J'espère qu'à l'avenir, le cirque cambodgien va s'épanouir, prospérer. Notre art du cirque, on ne le copie pas. Il est propre à notre culture. Le Cambodge a son propre cirque depuis des temps anciens. J'aimerais qu'il puisse se développer davantage. Peut-être comme le Cirque du Soleil. On pourrait s'appeler le Cirque du Cambodge. J'aimerais que le public nous connaisse davantage.
Le public peut déjà admirer les spectacles du cirque Phare à Battambang ou dans le centre réservé aux artistes professionnels à Siem Reap. Mais pour ses 25 ans et pour découvrir tous ses talents, l'école ONG prévoit de grandes portes ouvertes en juillet prochain.
Reportage de Juliette Buchez. Dans un instant, l'info. On se retrouve demain pour une émission bande dessinée avec Daniel Gossens pour une nouvelle version de son album culte Sacré Comique chez Fluide Glacial. Et vous m'en direz des nouvelles.